Chapitre 5 La dernière lutte. Dans la seconde semaine de septembre, Maggie se trouvait de nouveau assise dans sa chambre solitaire, combattant ses anciennes ombres ennemies, qui, toujours terrassées, se relevaient sans cesse. Il était passé minuit, et la pluie fouettait fortement les fenêtres, chassée avec violence par un vent impétueux et mugissant. Car le jour qui suivit la visite de Lucy avait apporté un changement soudain dans l'atmosphère. La chaleur du jour et les brises matinales avaient fait place à des vents froids et variables et à de fréquentes averses, et l'on avait défendu à la malade de s'exposer au risque du voyage projeté avant que le temps fût rétabli. Dans les comtés arrosés par la flotte supérieure, les pluies avaient été continuelles et l'on avait pu achever les moissons. Maintenant, depuis 2 jours, les pluies vers le cours inférieur de la rivière avaient été incessantes, au point que les vieillards hochaient la tête en rappelant que 60 ans auparavant, un temps semblable, aux environs de l'équinoxe, avait amené les grandes inondations qui avaient emporté le pont et causé à la ville les plus grands désastres. Mais la génération plus jeune, qui avait déjà vu plusieurs petites inondations, prêtait peu d'attention à ses sombres souvenirs et à ses pronostics. Et Bob Jakin, naturellement porté à espérer toujours en sa bonne chance, riait lorsque sa mère regrettait qu'ils eussent pris une maison au bord de la rivière. Et il observait que sans cela, il n'aurait point de bateau, ce qu'il pouvait posséder de plus utile dans le cas d'une inondation qui les força à aller chercher des vivres à distance. Mais les gens craintifs, de même que les gens rassurés, dormaient maintenant dans leur lit. On pouvait espérer que la pluie cesserait le lendemain. Des menaces pires que celles-là, après de violentes chutes de neige, n'avaient, au souvenir de la jeunesse, amené aucun danger. Et le pire qui pût arriver, c'était que les berges cédassent par l'effort de la marée montante dans la partie de la rivière qui était au-dessous de la ville, sans causer autre chose qu'un désagrément temporaire et quelques pertes souffertes par la classe la plus pauvre que la charité pourrait secourir. Tous et Tox dormaient paisiblement, sauf quelques veilleurs solitaires. Maggie était assise dans son petit salon du côté de la rivière, éclairée par une seule chandelle, qui laissait dans l'obscurité tout ce qui était dans la chambre, excepté une lettre posée sur la table. Cette lettre, qu'elle avait reçue dans la journée, était une des causes qui la faisait veiller si tard, sans penser aux heures qui fuyaient, sans s'inquiéter de chercher le sommeil, sans qu'aucune image de repos traversât son esprit, sinon ce lointain, lointain repos dont elle ne se réveillerait plus pour lutter encore dans cette vie terrestre. 2 jours avant de recevoir cette lettre, Maggie était allée à la cure pour la dernière fois. La violence de la pluie l'aurait empêchée d'y retourner depuis, s'il n'y avait eu une autre raison. Le révérend docteur Ken, qui n'avait d'abord été éclairé que par quelques légères insinuations relativement au nouveau tour que le bavardage et la médisance avaient pris à l'égard de Maggie, en avait été plus complètement instruit, récemment, par les reproches d'un de ses paroissiens contre le danger de persister à vouloir surmonter par la résistance le sentiment qui prévalait dans une paroisse. Le docteur Ken, ayant conscience de n'être nullement coupable en cette occasion, était disposé à persévérer encore et à refuser de céder à une appréciation publique qu'il trouvait odieuse et méprisable. Mais il fut enfin vaincu par la considération de la responsabilité attachée à sa charge et par la nécessité d'éviter l'apparence même du mal, apparence qui est toujours en rapport avec la disposition générale de ceux qui jugent. Quand ils ont l'esprit bas et grossier, le champ de cette apparence du mal s'élargit proportionnellement. Peut-être agissait-il vraiment avec obstination. Peut-être son devoir était-il de céder. Les gens consciencieux sont portés à trouver leur devoir dans le sacrifice le plus pénible. Et il était toujours pénible pour le révérend Ken de reculer. Il se décida à engager Maggie à quitter Sintogs pour quelque temps. Et il remplit cette tâche difficile avec le plus de délicatesse qu'il put, lui montrant en termes vagues seulement qu'il trouvait que sa tentative pour continuer à la faire rester là était une source de désaccord entre lui et ses paroissiens, qui pourrait peut-être entraver son influence comme pasteur. Il la pria de lui permettre d'écrire à un ecclésiastique de ses confrères pour lui demander de la recevoir dans sa famille comme gouvernante, ou, si la chose ne se pouvait pas, de lui indiquer quelque autre place convenable pour une jeune personne à laquelle le docteur Ken prenait un si vif intérêt. La pauvre Maggie l'écouta, les lèvres tremblantes. Elle ne put répondre qu'un faible « Je vous remercie, je vous serai reconnaissante ». Et elle revint chez elle, sous une pluie battante, avec un nouveau sentiment de désolation. Il lui faudrait donc errer dans l'isolement, il lui faudrait aller au milieu de nouveaux visages, qui la regarderaient avec curiosité et seraient surpris de ce que la vie ne lui paraissait pas gaie. Il faudrait recommencer une existence nouvelle et y chercher le courage de recevoir de nouvelles impressions. Et elle était si inexprimablement, si maladivement fatiguée. Il n'y avait plus de chez soi, plus de protection pour celle qui s'était exposée aux soupçons. Même ceux qui en avaient pitié étaient forcés de se montrer durs. Mais devait-elle se plaindre? Devait-elle redouter de passer ainsi une longue vie de pénitence? Seul moyen qu'elle eut de partager le fardeau des souffrances d'autrui et de pouvoir changer ainsi son erreur passionnée en une nouvelle force d'amour humain dégagée d'égoïsme. Elle passa toute la journée suivante seule dans sa chambre, vers sa fenêtre assombrie par les nuages et la pluie incessante, pensant à cet avenir et priant avec ferveur pour obtenir le secours de la patience. Quel repos Maggie pouvait-elle jamais espérer sans d'ardentes prières? Le troisième jour, ce jour qui finissait, elle avait reçu la lettre posée devant elle sur la table. Cette lettre était de Stephen. Il annonçait son retour de Hollande, son arrivée à Matport à l'insu de ses amis. Et de là, il lui avait écrit, et mis sa lettre dans une autre, adressée à une personne de confiance à St. Ogg's. Du commencement à la fin, c'était un cri de reproche passionné, une protestation contre le sacrifice qu'elle exigeait de lui ainsi que d'elle-même, contre cette appréciation erronée du devoir qui l'entraînait à briser toutes les espérances qu'il avait pu concevoir, et cela seulement pour une idée, sans aucun bien réel. Ses espérances d'en être aimé, lui qui l'aimait de cet amour unique, dominant, et avec cette adoration qu'un homme n'accorde à une femme qu'une fois dans sa vie. On m'a écrit que vous alliez épouser Ken, comme si je pouvais le croire. Peut-être vous a-t-on fait quelque conte semblable à mon sujet. Peut-être vous a-t-on dit que je voyageais. Mon corps a été traîné quelque part, mais moi, je n'ai jamais cessé d'être dans l'horrible lieu où vous m'avez quitté, où je me suis réveillé de la stupeur d'une rage impuissante pour voir que vous étiez parti. Maggie, quelle douleur a été semblable à la mienne? Qui a souffert comme moi? Quel autre que moi a pu rencontrer ce long regard d'amour qui s'est emparé de mon âme de manière à en bannir toute autre image? Maggie, rappelez-moi vers vous. Rappelez-moi à la vie et au bien dont vous m'avez banni comme de votre présence. Je n'ai plus d'intérêt à vivre. Je suis indifférent à tout. Ces 2 mois n'ont fait que rendre plus profonde la conviction que la vie ne m'est rien sans vous. Écrivez-moi ce seul mot, venez. En 2 jours, je serai près de vous, Maggie. Avez-vous oublié ce qu'était ce bonheur d'être ensemble, d'être à la portée d'un regard, de pouvoir entendre la voix l'un de l'autre? À la première lecture de cette lettre, Maggie sentit comme si la tentation réelle commençait seulement. Au moment d'entrer dans une sombre caverne, nous quittons avec un courage confiant la chaude lumière du jour. Mais si, après avoir longtemps marché dans l'humide obscurité, et après avoir éprouvé la fatigue et l'épuisement, une ouverture fait soudain briller à nos yeux la lumière qui entretient la vie, l'élan du désir naturel de nous soustraire au poids de l'oppression est si puissant que tous les motifs moins immédiats sont promptement oubliés jusqu'à ce que nous ayons échappé à cette angoisse. Pendant plusieurs heures, Maggie craignit d'avoir jusqu'alors lutté en vain. Pendant quelques heures, toute autre pensée qu'elle pût appeler à son aide fut chassée par l'image de Stephen, attendant ce mot unique qui le rappellerait à elle. Elle ne lisait pas sa lettre. Elle entendait sa voix la supplier, et cette voix reprenait sur elle son ancien pouvoir si étrange. Toute la journée précédente, elle avait été effrayée par la perspective d'un avenir solitaire dans lequel elle devrait vivre avec son fardeau de regrets, soutenu seulement par la foi religieuse à laquelle elle se cramponnait. Et là, à sa portée, lui parlant avec l'autorité d'un droit, était un autre avenir, où la pénible souffrance et la lutte pourrait se changer en une délicieuse confiance dans la force et l'amour d'un autre. Et cependant, cette promesse de joie faisant place à la tristesse n'était pas la plus forte tentation pour Maggie. C'était le ton de douleur de Stephen, c'était le doute sur la justice de sa propre résolution à elle, qui faisait osciller la balance et firent qu'une fois elle s'élança de sa chaise pour prendre la plume et écrire « Venez ». Mais au moment de se porter à cet acte décisif, son esprit recula, et la conscience de la contradiction qui éclatait avec les moments de force et de lucidité de son propre passé lui revint comme une sensation de dégradation morale volontaire. Non, elle attendrait, elle prierait. La lumière qu'il avait abandonnée reviendrait. Elle retrouverait de nouveau ce qu'elle avait déjà senti lorsqu'elle avait fui sous une inspiration assez puissante pour l'aider à vaincre son agonie, à vaincre son amour. Elle éprouverait de nouveau cette force qu'elle avait sentie lorsque Lucy était venue près d'elle et lorsque la lettre de Philip avait remué toutes les fibres qui la liaient à un passé plus calme. Elle resta assise et immobile jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Sans aucun désir de changer d'attitude, sans avoir même assez de vie pour formuler une prière mentale, elle attendait, elle espérait la lumière qui viendrait sûrement encore l'éclairer. Ce secours lui vint avec des souvenirs qu'aucune passion égoïste ne pouvait plus comprimer. Un long passé se présenta à elle, lui rappela les sources du renoncement, de la pitié et de l'affection, de la fidélité et de la force d'âme. Les mots choisis et indiqués par un esprit calme dans le vieux petit livre qu'elle avait depuis longtemps appris par cœur jaillirent presque de ses lèvres et se donnèrent essor par un doux murmure qui se perdit dans le fracas de la pluie frappant les fenêtres et dans le mugissement de la tempête. J'ai reçu la croix, je l'ai reçue de ta main. Je la porterai jusqu'à la mort, telle que tu m'en as chargé. Mais arrivèrent d'autres paroles qui ne s'exhalaient que par un sanglot. Pardonnez-moi, Stephen, ces moments passeront, vous reviendrez à elle. Elle prit la lettre, l'approcha de la chandelle et la laissa tranquillement brûler sur le foyer. Le lendemain, elle lui écrirait les dernières paroles d'adieu. Je porterai cette croix, je la porterai jusqu'à la mort. Mais combien de temps se passera avant que la mort vienne? Je suis si jeune et si bien portante. Comment aurai-je toujours de la patience et de la force? Dois-je encore lutter, tomber et me repentir? La vie a-t-elle encore d'autres épreuves plus fortes pour moi? Avec ce cri de désespoir, Maggie tomba à genoux près de la table, et cacha sa figure épuisée de douleur. Son âme s'élança vers la pitié invisible qui l'accompagnerait jusqu'à la fin. Certainement, elle retirait quelque instruction du grand besoin qu'elle avait ressenti de ce secours. Et il lui était réservé d'apprendre un secret de tendresse humaine et de patiente souffrance que ceux qui ont moins erré peuvent à peine connaître. Ô Dieu, si ma vie doit être longue, fais-moi vivre pour bénir et consoler. En cet instant, Maggie éprouva une singulière sensation de froid soudain aux genoux et aux pieds. C'était de l'eau qui coulait autour d'elle. Elle se leva subitement. Le courant venait de dessous la porte donnant sur le corridor. Sa présence d'esprit ne l'abandonna pas un seul instant. Elle comprit que c'était l'inondation. Les émotions tumultueuses qu'elle avait éprouvées pendant les 12 dernières heures semblaient lui avoir laissé un grand calme. Sans pousser un cri, elle monta à la hâte avec sa lumière jusqu'à la chambre à coucher de Bob Jakin. « Bob, l'inondation arrive, elle pénètre dans la maison. Allons voir si nous pouvons préserver les bateaux. » Elle alluma la chandelle de Bob, tandis que la pauvre mère, saisissant son enfant, éclatait en cris. Puis elle se hâta de descendre pour voir si l'eau montait rapidement. Il y avait une marche en bas devant la porte, conduisant du corridor dans la chambre. Elle vit que l'eau était déjà au niveau de cette marche. Tandis qu'elle l'examinait, un objet vint avec grand fracas frapper contre la fenêtre et fit tomber les carreaux plombés et le vieux cadre de bois dans l'intérieur. L'eau s'y précipita au même instant. « C'est le bateau !» cria Maggie. « Bob, descendez pour prendre les bateaux !» Sans un instant de crainte, Elle se précipita dans l'eau qui s'élevait à la hauteur de ses genoux, et à la lumière vacillante de la chandelle qu'elle avait laissée sur les degrés, elle monta sur la tablette de la fenêtre et se glissa dans le bateau, dont la proue était engagée dans l'ouverture. Bob ne fut pas long à la suivre, se hâtant d'arriver sans souliers ni bas, mais une lanterne à la main. « Tiens, ils sont tous deux là, les deux bateaux, » dit Bob en entrant dans celui où était Maggie. « C'est étonnant que cette corde ne se soit pas cassée comme la mare. » Dans son ardeur pour entrer dans l'autre bateau, le détacher et s'emparer d'une rame, Bob ne fut pas frappé du danger que courait Maggie. « Nous ne sommes point sujets à craindre pour ceux qui se montrent courageux quand nous partageons leur péril. » Et l'esprit de Bob était occupé à chercher les moyens possibles pour sauver ceux qui se trouvaient exposés dans la maison. Par le fait que Maggie était montée le réveiller et avait été la première à agir, Bob comprenait qu'elle était capable de porter secours sans en avoir besoin pour elle-même. Elle aussi s'était emparée d'une rame et avait repoussé le bateau de manière à le dégager de la fenêtre. « L'eau monte si rapidement, dit Bob, que je crains qu'elle n'arrive bientôt aux chambres. La maison est si basse. Je préférerais presque faire entrer Prissy, l'enfant et ma mère dans le bateau, si je le pouvais, et me confier à l'eau. La vieille maison n'est pas trop sûre. Et si j'abandonne le bateau ? Mais vous, s'écria-t-il tout à coup en dirigeant la lumière de la lanterne sur Maggie, comme elle était debout à la pluie, la rame dans sa main et ses cheveux noirs flottants. Maggie n'eut pas le temps de répondre, car un nouveau flux de marée, montant le long de la ligne des maisons, emporta les deux embarcations sur la grande nappe d'eau, avec une force qui les poussa bien loin de l'autre côté du courant de la rivière. Dans les premiers instants, Maggie ne sentit rien, ne pensa à rien, si ce n'est qu'elle avait été tout d'un coup délivrée de cette vie qu'elle redoutait. Il lui semblait être entrée dans la mort sans passer par l'agonie, et elle était seule avec Dieu dans l'obscurité. Le coup avait été si prompt, si semblable à un songe, que l'association ordinaire de ses idées était rompue. Elle tomba sur un banc en serrant machinalement la rame, et pendant longtemps n'eut aucune conception distincte de sa situation. La première chose qui la rappela un peu à elle-même fut la sensation de la pluie et la perception d'une clarté très faible qui séparait à l'horizon le ciel sombre de cette immense étendue d'eau. Elle était emportée sur l'inondation, ce terrible fléau de Dieu dont son père avait souvent parlé et qui avait été le cauchemar de ses rêves enfantins. Et avec cette pensée jaillit en elle celle de la vieille habitation, de Tom, de sa mère. Ils en avaient tous écouté ensemble les récits. « Ô Dieu, où suis-je ? De quel côté à la maison ? » s'écria-t-elle dans cette obscure solitude. Qu'arrivait-il au moulin ? L'inondation l'avait une fois presque entièrement détruit. Il se pouvait que ses hôtes fussent en danger, dans la détresse. Sa mère et son frère y étaient seuls, loin de tout secours. Toute son âme était fixée maintenant sur cette pensée, et elle voyait ces figures longtemps aimées, cherchant une aide, et appelant dans cette sombre nuit, sans recevoir de réponse. Elle flottait alors sur l'eau tranquille, peut-être bien loin au-dessus des champs inondés. Aucun sentiment de danger présent ne pouvait détacher ses pensées de la vieille maison. Elle fixait ses regards sur ce rideau obscur afin de saisir les premières indications de l'endroit où elle se trouvait, afin de pouvoir se former quelque idée de la direction qu'elle devait prendre. Oh, quelle était la bienvenue, cette étendue d'eau tranquille, puis l'ascension graduelle de cette lumière sur le ciel nuageux, laquelle dessinait peu à peu la silhouette des objets sur l'obscurité miroitante des eaux. Oui, elle devait être au-dessus des prairies, car çà et là émergeaient les cimes des arbres des enclos. Ou peut-être le lit de la rivière. En regardant derrière elle, elle voit la ligne foncée des arbres. Devant elle, il n'y en a point. C'est donc là que se trouve la rivière. Elle saisit une rame et commença à pousser le bateau en avant avec l'énergie d'un nouvel espoir. L'aurore semblait s'avancer plus rapide à mesure que Maggie ramait. Et bientôt elle put voir de pauvres animaux muets d'épouvante, piteusement réunis sur une élévation où ils avaient cherché un refuge. Elle continua à se diriger en avant à la clarté naissante du jour. Ses vêtements mouillés se collaient à son corps, et le vent secouait ses cheveux ruisselants. mais elle avait à peine la perception de ses sensations physiques, excepté celle d'une force inespérée produite par un excès d'angoisse. À l'idée du danger que couraient ces habitants de la vieille maison, longtemps chérie, et du secours qu'elle leur apportait peut-être, se mêlait celle d'une réconciliation avec son frère. Quelle querelle, quelle dureté, quel manque de confiance mutuelle pourrait subsister en présence d'une si grande calamité, alors que l'enveloppe mensongère de notre vie est détruite et que nous sommes tous semblables dans notre impuissance en face de la mort. Maggie avait vaguement cette intuition par le retour de sa vive tendresse pour son frère, qui effaçait toute impression plus récente d'offenses et de malentendus durs et cruels, en ne laissant subsister que les souvenirs profonds et indélébiles de leur union d'enfance. À ce moment, elle vit à distance une grande masse obscure et put distinguer près d'elle le courant de la rivière. La masse obscure devait être, oui, c'était bien St. Hawks. Elle sut alors de quel côté elle devait chercher des arbres bien connus, les saules gris, les châtaigniers jaunissants, et au-dessus d'eux le vieux toit. Mais il n'y avait encore ni couleur, ni forme distincte. Tout était enveloppé dans une obscurité confuse. Son énergie semblait augmenter de plus en plus, comme si toutes les forces de sa vie, amassées jusqu'à ce moment, dussent se dépenser dans cette seule heure, ne devant plus lui être nécessaire. Il fallait faire entrer son bateau dans le courant de la flosse, autrement elle ne pourrait jamais traverser la Ripple et approcher de la maison. Ce fut la pensée qui se présenta à elle, comme elle se rappelait de plus en plus nettement l'état des choses près de l'ancienne habitation. Mais alors elle risquait d'être entraînée par le courant beaucoup plus loin et d'être incapable de diriger le bateau. Pour la première fois, des idées de danger commencèrent à l'oppresser. Mais il n'y avait pas à choisir. Elle ne pouvait hésiter. Elle se lança donc dans le courant. Elle navigua rapidement alors, sans effort, parvenant à distinguer de plus en plus, à mesure qu'elle s'en approchait et qu'augmentait la clarté de l'aurore, des objets qu'elle savait être des arbres et des toits bien connus. Bien plus, elle n'était pas éloignée d'un torrent boueux qui devait être la Ripple, étonnamment changée. Grand Dieu ! Ce torrent charriait des masses flottantes qui pourraient heurter son bateau en passant et la faire périr trop tôt. D'où provenaient ces masses ? Alors le cœur de Maggie commença à battre dans une angoisse d'épouvante. Elle s'assit désespérée, sentant confusément qu'elle était entraînée par les flots, s'attendant toujours à un choc fatal. Mais son effroi fut passager. Ce danger se dissipa avant qu'elle arrivât aux entrepôts de St. Hawks. Elle avait alors passé l'embouchure de la Ripple. Il fallait maintenant employer toute son habileté et toute sa force à sortir le bateau du courant, si cela était possible. Elle put voir que le pont était rompu. Elle vit les mâts d'un vaisseau ensablé bien avant sur les champs couverts d'eau. Mais aucun bateau ne s'apercevait sur la rivière. Ceux sur lesquels on avait pu mettre la main étaient employés dans les rues inondées. Ce fut avec une nouvelle résolution que Maggie se leva pour recommencer à ramer. La marée descendante ajoutait sa force à la rapidité de la rivière, et elle fut entraînée plus bas que le pont. Elle entendit des cris partant des fenêtres donnant sur la rivière, comme si des gens l'appelaient. Ce ne fut que lorsqu'elle eut à peu près passé Tofton qu'elle put sortir le bateau du courant. Alors, jetant un regard d'affection sur la maison de son oncle Dean, qui était un peu plus bas sur la rivière, elle prit les deux rames et employa toute sa force à traverser les champs inondés pour remonter vers le moulin. Les diverses teintes de la nature commençaient à se distinguer maintenant, et comme elle approchait les terres de Dorlcote, elle put discerner la couleur des arbres. Elle put voir les vieux pins d'Écosse au loin sur la droite et les vieux châtaigniers de la maison. Oh, qu'ils étaient profondément enfoncés dans l'eau, bien plus que les arbres de ce côté-ci de la colline. Et le toit du moulin, où était-il? Ces énormes débris qu'entraînait la Ripple, que signifiaient-ils? Mais ils ne venaient pas de la maison. La maison était là, debout, noyée jusqu'au premier étage, mais encore ferme, à moins qu'elle n'eût croulé du côté opposé, vers le moulin. Haletante d'une espérance qui dominait toute détresse, Maggie approcha enfin de la façade de la maison. D'abord, elle n'entendit rien. Elle ne vit aucun objet en mouvement. Son bateau était au niveau des fenêtres du premier étage. Elle appela à grands cris. « Tom, où es-tu? Mère, où es-tu? C'est Maggie !» Bientôt, elle entendit à la fenêtre du milieu de l'attique la voix de Tom. « Qui est-ce? Avez-vous amené un bateau? C'est moi, Tom, c'est Maggie. Où est notre mère? Elle n'est pas ici, elle est allée à Garum avant-hier. Je vais descendre à la fenêtre de l'étage inférieur. » Seule, Maggie, dit Tom d'une voix profondément étonnée, en ouvrant la fenêtre du milieu qui se trouvait au niveau du bateau. « Oui, Tom, Dieu a pris soin de moi pour m'amener ici. Entre vite. N'y a-t-il plus personne ?»« Non, dit Tom, sautant dans le bateau. Je crains que le garde-moulin ne soit noyé. Il a été entraîné par la Ripple, je pense, lorsqu'une partie du moulin a croulé sous l'effort des arbres et des pierres. Je l'ai appelé maintes fois et n'ai point eu de réponse. Donne-moi la rame, Maggie. » Ce ne fut que lorsque Tom eut ramé un instant et qu'ils furent sur l'étendue libre d'eau que, face à face avec Maggie, l'explication complète de ce qui était arrivé s'empara de son esprit. Elle lui vint avec une force si pressante, et ce fut pour son intelligence une révélation si subite de ces profonds mystères de la vie qui étaient restés en dehors de sa conception qu'il croyait si claire et si perçante, qu'il fut incapable de faire une question. Ils se regardaient silencieusement. Maggie, avec des yeux où la puissance de la vie se montrait sur un visage fatigué, harassé. Tom, pâle et avec un sentiment de vénération et d'humilité. La pensée était active en lui, quoique ses lèvres fussent muettes. Et bien qu'il ne pût faire aucune question, il devinait toute une histoire d'efforts presque miraculeux et divinement protégés. Mais enfin un nuage humecta ses yeux et ses lèvres laissèrent échapper un mot qu'elles purent proférer avec l'ancien accent des jours de l'enfance. « Maggie !» Maggie ne put répondre à cet appel que par un profond sanglot qui témoignait de ce bonheur intense et mystérieux qui se confond avec la douleur. Aussitôt qu'elle put parler, elle dit « Nous irons d'abord vers Lucy, Tom. Nous irons voir si elle est en sûreté, et ensuite nous pourrons porter secours à d'autres. » Tom ramait avec une grande vigueur et avec bien plus de rapidité que la pauvre Maggie. Le bateau rentra de nouveau dans le courant de la rivière et ils étaient bien près d'arriver à Tofton. « La maison du parc est placée assez haut pour être à l'abri de l'inondation, » dit Maggie. « Peut-être que Lucy s'y trouve. » Ils ne dirent rien de plus. Un nouveau danger leur était apporté par la rivière. Quelques clôtures d'un chantier venaient de céder sur l'un des quais et d'énormes fragments étaient entraînés par les flots. Le soleil se levait en cet instant, et la vaste étendue de cette plaine liquide les entourait d'une effrayante scène de désolation. La clarté du jour leur montrait les masses effrayantes et menaçantes qui se précipitaient sur eux. D'un bateau rempli de gens qui se frayaient avec peine un passage le long des maisons de Tofton, on vit leur danger, et on leur cria « Sortez du courant !» Mais cela ne pouvait se faire si promptement, et Tom, regardant devant lui, vit la mort qui allait les atteindre. D'énormes fragments, fatalement agglomérés, ne formaient qu'une seule masse jetée en travers du courant. « Nous sommes perdus, Maggie, » dit Tom d'une voix étouffée, en abandonnant les rames et la saisissant dans ses bras. L'instant après, le bateau disparaissait, et l'épouvantable masse hâtait sa hideuse course triomphante. Bientôt, la quille du bateau reparut comme une tache noire sur cette eau dorée par les premiers rayons du soleil. Le bateau reparut, mais le frère et la sœur avaient été engloutis, serrés dans une suprême étreinte, retrouvant en cet instant solennel le bonheur des jours où l'amour fraternel unissait leurs petites mains lorsqu'ils erraient ensemble dans les prairies pour cueillir les blanches pâquerettes. Conclusion. La nature répare ses désastres. Elle les répare par les rayons de son bienfaisant soleil et par le travail de l'homme. 5 ans plus tard, les ravages causés par cette inondation avaient laissé peu de traces visibles sur la surface de la terre. Le 5e automne était riche en meules dorées, s'élevant en rangs serrés entre les haies éloignées. Les quais et les entrepôts sur la flosse, jouissant d'une nouvelle activité, était animé par la voix des travailleurs, par le chargement et le déchargement des marchandises, source de prospérité commerciale. Chacune des personnes mentionnées dans cette histoire était encore vivante, excepté celle dont nous connaissons la fin. La nature répare ses désastres, mais non pas tous. L'arbre arraché ne reprend pas racine. Les rochers détachés des montagnes y laissent des cicatrices. Il y a une nouvelle végétation, mais ce ne sont pas les mêmes arbres qu'autrefois, et les montagnes laissent voir au-dessous de leur verdure les traces des anciennes secousses. Pour les yeux qui conservent le souvenir du passé, il n'y a point de réparation complète. Le moulin de Dorlcote était rebâti. Le cimetière de Dorlcote, ainsi que la tombe en brique qui renfermait les restes d'un père que nous connaissons, retrouvé avec sa pierre renversée, avait repris sa végétation régulière et son décent repos. Près de la tombe en brique, il s'en éleva une autre, bien peu de temps après la catastrophe. Car on avait retrouvé deux cadavres réunis dans un étroit embrassement. Et cette tombe était visitée alternativement par deux hommes qui sentaient que leur joie les plus vives et leur plus profonde tristesse y étaient renfermées. L'un d'eux, plusieurs années après, visitait encore cette tombe avec une douce figure à ses côtés. L'autre resta toujours solitaire. Sa promenade favorite était parmi les arbres des fonds rouges, que la joie détruite semblait encore hanter comme un revenant. La tombe portait les noms de Tom et de Maggie Taleva, et au-dessous de ces noms on lisait « Dans la mort, ils n'ont plus été séparés ». Fin du second volume.